Bonjour, bon, on parle de Tokyo à Rio. J'aimerais quand même bien souligner qu'il s'agit d'une réflexion, d'un projet de recherche que je démarre depuis quelques mois. Je suis juriste historien et maître de conf à l'université PUC de Rio de Janeiro. Alors là, en parlant un peu à partir de Tokyo. Je me rends compte que moi, la question liée aux grands événements sportifs peut nous faire des liens. Je ne sais pas si on a la chance ou les malheurs d'avoir gagné la course par rapport à Tokyo. Et alors du coup, la question des grands événements, d'une certaine façon, ils seront aussi au cœur et on va parler quand même sur cette question-là. Surtout parce que Rio de Janeiro, pour les prochaines années, on va quand même abriter la plupart des grands événements sportifs. Et même pas seulement les sportives. Alors, il y a eu le Jeu panaméricain en 2007, les Jeux militaires en 2011, la Coupe de Confédération en 13, la Coupe du Monde en 14, les Jeux olympiques en 16. Ben, il y a vraiment un impact direct sur l'intervention, sur la gestion de la ville, sur la pensée de la ville à Rio de Janeiro. Alors, je vais essayer quand même de me centrer sur mon texte pour ne pas trop dépasser les temps, pour ne pas dépasser les temps. Alors, l'hypothèse, d'une certaine façon centrale de ce projet, c'est d'analyser de quelle façon l'idée de catastrophe, bon, notamment Rio, c'est lié aux grandes pluies, aux grandes tempêtes, notamment lié à l'écroulement des terres et qui touche très particulièrement les favelas de la ville, mobilise les discours et les ressources qui ont posé des modifications importantes sur la façon d'agir de l'État dans les favelas. Alors, mon projet de recherche, il essaye quand même d'analyser dans une réflexion plutôt historique, depuis une quarantaine d'années, comment ces événements qui sont normalement passés par les médias comme quelque chose d'anormal, mais qui sont quand même quelque chose de cyclique dans la ville. Et j'essaie d'analyser comment la notion du risque est centrale dans cette réflexion-là. Et d'une certaine façon, elle va toucher les politiques publiques et l'expertise technique pour des interventions directement dans les favelas. Mais pour cette présentation ici, je veux plutôt me centrer sur la dernière grande pluie de la ville. C'était au mois d'avril 2010, plus précisément le 5 avril 2010, qui a eu un impact très important avec l'écroulement de plusieurs maisons dans plusieurs favelas de la ville. Alors je vais essayer d'analyser un peu la question de la notion du risque et en essayant de porter une réflexion plutôt dans une construction sociale de cette notion. Après, en essayant d'analyser comment la notion du risque après les pluies d'avril 2010 a porté quand même un aspect de justification, de légitimation de politique publique par rapport aux favelas. Et après, je vais essayer de montrer quand même à partir de quelques photos les cas spécifiques d'une favela que je suis en train de travailler. Alors, vous voyez bien, bon, qu'il y a énormément des enjeux à Rio de Janeiro. La notion du risque, c'est l'un des aspects, c'est quand même utilisé par le pouvoir public en ce qui concerne les politiques à l'égard des favelas. Mais c'est clair qu'il faut situer cela dans un grand mouvement, si on peut parler aussi, peut-être, on peut emporter aussi ces termes-là, néolibéral, d'une intervention massive des investissements dans la ville de Rio de Janeiro qui dépasse largement les capitaux nationaux. Et on voit aussi la circulation d'un capitaux internationaux qui s'intéresse pour cette ville dite, soit dite émergente. Alors, pour la première partie, bon, c'est un peu les trois points que je vais essayer d'aborder. Je vous laisse déjà la photo de Rossing, parce que c'est l'un des sous-quartiers, c'est lui tout en haut qui entre dans la forêt que je vais essayer de parler tout à l'heure. Alors, la notion de risque est un facteur essentiel pour la compréhension de la société actuelle, des relations sociales et des décisions politiques, notamment celles qui ont trait à la planification et la gestion des villes. Malgré l'importance des mesures d'atténuation et d'élimination des risques potentiels, la notion arbitraire et généralisée du risque finit par aveugler l'analyse des facteurs objectifs, contribuant ainsi à la consolidation de représentations sociales extrêmement négatives de certaines zones de la ville et de leurs habitants dans les cas de Rio de Janeiro, surtout les favelas. Alors, depuis les débuts, les favelas sont considérées des zones de risque, que ce soit des risques épidémiques au début du siècle, après un risque social et un risque politique même par l'entrée des communistes dans les favelas, notamment à partir des années 40-50, et actuellement notamment du risque environnemental. Sans nier l'existence des risques dans certaines régions et des impacts possibles sur des zones de protection environnementale, la généralisation de la notion du risque masque le fait que les favelas sont pleinement intégrées à la ville et que la suppression aveugle de ces constructions, d'une certaine façon, va accroître les inégalités sociales par les biais de l'expulsion de la population vers des zones plus éloignées, certainement encore plus vulnérables. C'était le cas notamment des années 60-70, que le gouvernement a replacé, a relogé 140 000 personnes dans une période d'une dizaine d'années. Alors, dans ce sens, la notion du risque environnemental, actuellement, devrait être analysée dans un contexte d'inégalité, dépassant le seul discours technique qui associe l'environnement urbain construit aux dimensions naturelles du site, avec sa topographie accidentée et le régime de précipitation. Il faut prendre aussi en considération le processus complexe de l'occupation des zones urbaines, ainsi que les interventions ou l'omission des autorités publiques qui reconfigurent le dessin de la ville. Les risques n'est pas une donnée préétablie, mais une construction sociale et politique. Et notamment pour à nos jours, on voit très clairement, si on fait une réflexion par rapport aux investissements de l'État ou de la mairie au cœur de favelas, justement pour réduire la question du risque, c'est complètement comparable au cas des accidents qui ont depuis quelques années. Alors, de toute façon, il existe un conflit entre, d'une part, un discours technique, producteur du concept dominant du risque, et d'autre part, le contre-discours de la population qui apporte un reclassement de cette notion. Ces conflits présentent des contours moralisateurs en stigmatisant des groupes et leurs comportements considérés comme des comportements à risque, en établissant donc une résignification sociale au processus d'occupation de ces quartiers de la ville et de leurs habitants. D'une certaine façon, la notion sociale du risque cherche à traiter les risques non seulement d'un point de vue technique et objectif, mais plutôt comme l'objet d'une construction sociale menée par des différents groupes sociaux. Les risques socialement construits seraient ainsi les produits de perceptions différentes qui intègrent des visions du monde, des cultures et des structures de sociabilité spécifiques à certains groupes sociaux. La réalité serait alors le fruit d'un processus de construction sociale où les représentations sociales non seulement reflètent la réalité, mais contribuent à les produire. Les notions alors de pollution, d'après Marie Douglas, servent d'analogie pour exprimer une idée générale d'ordre social. Et alors ce que j'essaie d'aborder ici, c'est que l'invocation de la nature et la question du risque actuel à Rio de Janeiro implique une remise en cause radicale de la grammaire politique concernant les favelas depuis les années 80. Alors depuis la démocratisation, qu'il a eu quand même l'entrée d'une réflexion non plus centrée sur le relogement, l'éradication des favelas, mais plutôt sur l'intégration et la réhabilitation de ces espaces. Il renforce une représentation morale négative attribuée aux favelas et leurs habitants. Dans les cas de Rio, comme on verra maintenant, il s'agit de reprendre la vieille ambition d'une ville sans favela. Alors, une deuxième partie de ma réflexion, si je peux parler de la question de pluie d'avril 2010, et qui a quand même touché plusieurs favelas avec des inondations et d'écroulement des terres. Il a permis d'une certaine façon de remettre dans l'arène publique de Rio de Janeiro les favelas comme le principal problème public et qui devait à tout prix trouver des solutions pour résoudre cette question-là. Alors, par une réflexion à partir de journaux, alors, dans les cas de Rio, on a presque un seul grand journal, et c'est toute la chaîne au Globo, et qui, bon, bien sûr, il a tout un intérêt spécifique, et qui fait une campagne très forte contre le favelas. Je peux vous citer un article deux jours après les pluies, qui va dire la chose suivante: « La tragédie de 2010 devra être le point zéro d'une sérieuse politique de relogement des habitants des sites de risque et des petites favelas, encore en condition d'être éradiquée. On ne peut pas maintenir le préjugé contre le relogement. » Alors, je vous cite aussi, jusque le lendemain des grandes pluies, la municipalité a promulgué un décret et en déclarant la ville en situation d'urgence, qu'il fallait mettre certaines mesures d'exception. Et alors, je vous cite, c'est un peu long, mais je vous cite quand même pour bien saisir la mise en place de la politique de la mairie. Il a dit la chose suivante dans ses décrets: les taux élevés des précipitations accumulées en 24 heures ont entraîné la montée des eaux pluviales dans les rues de la ville de Rio de Janeiro, en provoquant des dégâts massifs et pertes importantes à la population carioque. Les zones de la municipalité ont subi des glissements de terre et de pierres, provoquant ainsi l'effondrement des maisons, faisant plusieurs victimes et provoquant des inondations. Cette catastrophe a provoqué des domaines humains, matériels et environnementaux, ainsi que de pertes économiques et sociales, selon l'évaluation préliminaire établie par les organismes municipaux compétents. Ça, c'est lendemain. L'évaluation dans un jour, c'est assez complexe quand même de le faire, mais bon, de toute façon, elle va citer, je continue. D'autres facteurs ont contribué à aggraver cette anomalie, la croissance désordonnée de la ville au cours de cette dernière décennie, avec la construction des nombreux bâtiments dans les zones à risque géotechnique et passibles d'inondation, l'existence d'un million de personnes touchées, la vulnérabilité du système routier, les risques d'effondrement des systèmes, bon, ainsi de suite. Alors, là, pour moi, c'est que c'est très intéressant de toucher, c'est que d'un seul coup, ce décret, il va annoncer qu'un million de personnes ont été touchées. Ben, en 24 heures, c'est un peu complexe de faire cette évaluation, mais ces chiffres-là sont quand même très significatifs parce que dans les derniers recensements de la ville, en 2000, on annonçait qu'il y avait un million de personnes vivant sur les favelas. Alors là, d'un seul coup, on fait quand même, on peut faire des rapprochements en disant qu'il va de nouveau établir que l'ensemble des favelas de la ville, d'une certaine façon, sont touchés, sont des zones de risque, et que pourtant, il pouvait quand même avoir une mesure d'exception contre ces populations-là. Et alors, du coup, ces textes, ils continuent en disant que, en déclarant qu'autorisant alors les autorités administratives et les agents de la défense civile, directement responsables des actions contre le désastre, et dans les cas de risque imminent, d'entrer dans les foyers, même sans le consentement du résident, pour rendre assistance et pour déterminer l'évacuation immédiate des maisons. Alors, la solution, d'une certaine façon, c'était la suppression directe des baraques dans les favelas, des constructions dans les favelas, sans porter une réflexion quand même sur la présence, sur les risques, de quelle façon on pouvait peut-être prélever et éviter ces risques au lieu la mesure, c'était plutôt de les enlever. Alors, bon, en prenant la question de catastrophe environnementale, alors, il s'agit plutôt des événements qui articulent des phénomènes physiques et l'élaboration culturelle qui les définit et qui soulèvent des questions au sein de la société, étant donné l'absence de mesures préventives et les difficultés de la gestion de leurs conséquences. En termes sociopolitiques, la matérialisation d'une catastrophe signifie un désaccord entre une représentation du risque de la part de divers agents, divers acteurs, surtout des fractions de l'État, aussi bien pour planifier et exécuter des actions à la mesure du potentiel réel de facteurs de menaces et des prolongations de la vulnérabilité. Alors, les désastres liés aux pluies dans les cas de Rio montrent la vulnérabilité structurelle des zones les plus pauvres de la ville. Bien que les pluies atteignent aussi la ville de manière cyclique, tout nouveau désastre concernant les pluies est diffusé comme une rupture de la normalité, notamment dans les quartiers plus pauvres. Alors, d'une part, les pauvres sont culpabilisés, accusés de connaître l'existence des risques dans leur lieu de vie et de vouloir quand même y rester. À part l'aspect émotionnel, les héros qui surgissent pour sauver les familles ensevelies et quelques promesses politiques lancées par les autorités publiques, les débats politiques de fond n'avancent que très modestement, en espérant peut-être que l'été prochain, les pluies soient moins importantes que l'été précédent. Alors, dans ces cas-là, dans ces contextes, je vais essayer d'analyser très spécifiquement les cas du sous-quartier Laboriou, c'est justement les sous-quartiers tout en haut qui entrent dans la favela. C'est un sous-quartier de ce complexe très grand que c'est Rossigne. Rossigne, elle a 70 000 habitants. Les quartiers de Laboriou, il doit avoir à peu près 5-6 000. Et alors, avant d'entrer spécifiquement sur ces contextes-là, j'aimerais quand même bien situer que la législation actuelle à Rio, elle a déterminé le principe du non-relogement, ça veut dire qu'on ne peut pas reloger une favela à condition, sauf dans les cas des risques de vie aux habitants. Et dans ces cas-là, il y a trois points très importants. Tout d'abord, il faut produire un rapport technique qui puisse prouver qu'il existe effectivement les risques de vie aux habitants. Un deuxième aspect, il s'agit de la participation de la population dans la construction de ces rapports. Et un troisième point, c'est que dans tous les cas, les relogements, il faut qu'ils soient faits dans la proximité, proche de quartiers originaux, d'un où ils habitaient avant. 5 minutes, d'accord, je suis au point de m'arrêter. Alors, pour les cas de Rio, c'est assez complexe parce que c'est lui qui va déterminer, il définit le risque, c'est un organisme municipal qui s'appelle GeoRio. Et alors, bien sûr, il y a eu déjà plusieurs tentatives d'élargir la possibilité de relogement, mais il se trouve extrêmement plus simple d'élargir le concept de risque, de pouvoir contrôler la définition du risque. Alors du coup, notamment à partir de 2009, avec les nouveaux maires, on voit comment cette compagnie-là, cet organisme municipal GeoRio, joue quand même un rôle extrêmement important. Alors, très spécifiquement pour conclure, en ce qui concerne ces sous-quartiers, il faut bien le situer. L'occupation démarre aux années 60. Il a eu quelques relogements pendant les années 60-70. Mais là, c'est quand même un aspect très important, c'est qu'en 75, la mairie elle-même, elle va déplacer 76 familles qui habitaient tout en bas de la favela, à côté d'un canal en fait, qui la population subissait quand même des inondations. Ils ont déplacé cette population pour ce quartier-là. Alors, d'une certaine façon, c'est l'État lui-même qui a construit, qui a stimulé, qui a établi ces quartiers. Depuis 2005, il y avait quand même une initiative municipale de régularisation foncière de cet espace-là. Bon, après les pluies, cette initiative est tombée à l'eau, il s'est arrêté. Alors là, il faut quand même bien situer ce quartier. Il est dans Rossin, il est entre deux quartiers extrêmement aisés de la ville, Gavia et Saint-Conrad, et joue quand même un rôle extrêmement important. Et justement, le sous-quartier de Laboriou, il est à quelques mètres même de très belles maisons assez aisées, et même de l'école britannique, où on paye par mois à peu près 1 500 à 2 000 euros pour que les enfants puissent étudier. Alors bien sûr que cela pose des problèmes, et en ce qui concerne la question des risques, on va voir que tant dans les cas de la favela comme dans ces maisons-là, il y a eu des écroulements pareils, sauf que les investissements qu'on voit actuellement, ils sont extrêmement différents par rapport aux favelas et dans les quartiers aux alentours. Alors je n'aurai pas le temps de tout citer, mais ce que c'est très intéressant, c'est quand même que ces mouvements pour les relogements, la mairie elle ne va pas vouloir toucher seulement cette favela, mais plusieurs favelas. Cela a permis quand même la construction d'un forum qui a rassemblé les associations de résidents, les mouvements sociaux, des juristes, pour essayer des techniciens, pour essayer de construire des contre-rapports, en essayant de montrer que le rapport de Joriot il était quand même extrêmement perméable des questions politiques, notamment des intérêts immobiliers, qui construisaient la question du risque selon l'intérêt de ces espaces-là. Et en plus, outre la question des zones de risque, plusieurs de ces rapports ils commencent à insérer, et notamment de la mairie, la question d'un risque environnemental sans bien définir cette question. Et alors, bon, pour m'arrêter, la situation actuelle, c'est un peu indéfini. La mairie elle a quand même détruit quelques maisons, mais là, c'est très intéressant, c'est que la notion du risque, c'est quand même très relative, puisque les décombres de ces maisons là, restent sur place, et je vais vous montrer les photos, depuis la ville de 2010. Alors, nous pouvons trouver des situations assez étonnantes. Par exemple, vous savez bien que le favela, actuellement, ils ont plusieurs étages, et alors, du coup, ils ont réussi à détruire, à reloger l'habitant du rez-de-chaussée. Par contre, le deuxième, troisième étage, dans plusieurs cas, ils sont entrés en justice et ils sont restés. Alors, la mairie, elle a détruit tous les murs de la maison, elle ne laisse que le pilier. Alors, on va voir pour que l'habitant du deuxième étage doit passer par les décombres pour y accéder. Et alors, il n'a plus d'investissement de l'État dans ces espaces-là. Les habitants eux-mêmes, devant les dangers d'un relogement possible, ils n'investissent plus dans les quartiers. Alors, je finis. Les mairies n'affichent plus actuellement de façon claire sa position, ni cherchent à mener des travaux pour supprimer les risques du quartier. Devant la possibilité imminente d'un relogement, les habitants ne cherchent non plus à investir leurs ressources pour améliorer leurs conditions de vie. L'emploi de la notion du risque à Rio Janeiro se révèle pas du domaine de la prévention, mais plutôt semble servir à justifier la reprise des relogements de favelas. Alors, je vous montre quelques photos. Voilà, bon, ça, la première, on voit le deuxième étage qui existe toujours et comment ils ont détruit. Par exemple, celle d'ici, on voit que l'habitant, il y a quand même une maison tout au fond, elle doit passer par les décombres pour y accéder. Là, c'est pareil, ils ont détruit toute une partie. C'est là une partie de maison. Pourtant, les décombres sont toujours sur place. La mairie n'a rien fait pour les enlever. Et alors, bien sûr, en augmentant la notion du risque. Là, c'est pareil avec l'escalier. Là, par exemple, bon, c'est d'autres angles de vue. Et là, bon, il y a même de l'eau qui sort encore du robinet. Si vous voyez, là, par terre, c'est encore mouillé. Et on ne touche pas. C'est toujours pareil. Et alors, c'est que pour finir, c'est quand même une localisation extrêmement privilégiée. Et ce n'est pas par hasard que plusieurs maisons, plusieurs favelas considérées des risques sont la plupart situées au front de mer, proches des zones extrêmement aisées. Merci. Merci.